RCF. Bonjour à toutes et à tous. Accrochez vos ceintures, mettez un peu de musique latine et préparez vos plus beaux modules de cigares, car aujourd'hui, nous plongeons dans le monde envoûtant de Maya Selva. Non, ce n'est pas une nouvelle destination exotique pour vos vacances prochaines, mais celui d'une femme qui a transformé l'industrie du cigare. Maya est une hondurienne qui a fait de la fabrication et de l'exportation du cigare son métier. Née dans un pays où le cigare est roi, Maya a roulé sa vie comme un maître torcedor roule un puro. Certains la disent comme étant la Carmen du cigare. Diplômée en économie en France, elle n'a pas choisi la voie classique de la finance ou de la gestion ou des statistiques. Non, Maya a décidé de mettre le feu à l'industrie du cigare. Et en 1995, avec sa propre marque, elle lance Flor de Selva, Cumpay, Villa Zamorano, trois marques qu'elle commercialise et qui, selon certaines revues spécialisées, sont aujourd'hui des classiques. Mais ne vous y trompez pas, derrière ces noms se cache un caractère bien trempé, une finesse d'approche. Maya, c'est cette rare combinaison d'intelligence économique, de sensibilité artistique qui sait que derrière chaque cigare, il y a une histoire, un terroir et des territoires auxquels elle est attachée. Femme dans un monde d'hommes, Maya n'a jamais eu peur de bousculer les codes et pourtant elle reste aussi authentique qu'une feuille de tabac non traitée. Elle défend des causes sociales et environnementales. Maya Selva n'est pas seulement une femme qui a réussi dans le cigare, mais une pionnière qui nous rappelle que la vie, c'est comme un bon cigare. Il faut savoir allier audace et harmonie des saveurs et que c'est avant tout la qualité de la matière première qui fait le tout. Maya Selva, bonjour.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
Merci.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Maya Selva, un nouveau visage d'entrepreneur avec vous dans l'Écho des Solutions. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes assez rare dans les médias et je vous remercie vraiment d'avoir pris ce temps pendant 58 minutes d'accepter d'échanger avec nous pour nous parler de ce qui fait votre vie au quotidien, le cigare, et puis de votre parcours de femme, de mère, de chef d'entreprise. On a envie quasiment de tout savoir sur ce qui est derrière la femme d'entreprise Maya Selva. Et vous nous direz bien évidemment ce que vous avez envie de nous dire. Alors, le portrait que vous venez d'entendre, Maya Selva, il est issu de l'intelligence artificielle. J'ai mis « Fais-moi le portrait de Maya Selva » dans le chat GPT. Et voilà, en mettant « Mets-moi un peu d'humour », quelques éléments dans ce que l'on appelle le prompt. Et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez, Maya Selva ?
Remarquable.
Vous vous reconnaissez là-dedans ? Il n'y a pas d'erreur ?
Ah non, mais je m'y reconnais et très élogieux. Donc voilà, ça fait un peu rougir tout ça.
Bon, après, ChatGPT est toujours assez consensuel, j'ai remarqué, puisque chacun de nos invités y passe. Et je vous montrerai à l'issue de l'émission, si vous le voulez, le portrait physique qui est fait de vous, Maya Selva, à partir de l'intelligence artificielle. On va passer 58 minutes ensemble. Je pose toujours la question, mes invités, avant de commencer, dans quel état d'esprit êtes-vous ?
Curieuse, et peut-être merci de prendre, d'obliger à prendre ce temps de discernement afin de pouvoir répondre à vos questions.
Le discernement, vous parlez assez peu de vous. J'ai regardé un petit peu sur les internets. Heureusement, ChatGPT sait aller dans des recoins où moi, je n'ai pas pu aller. Mais on trouve assez peu, il y a une forme de discrétion chez vous, Maya Selva, qui est cultivée, volontaire ou simplement je mène ma vie et puis quand on s'intéresse à moi, je réponds oui.
Waouh. Parlons de cigares, parlons du RAS, parlons... voilà, société, vie ensemble, ouais. Parlons vie.
C'est ce qui vous passionne. Alors, on est dans vos bureaux, au siège de l'entreprise à Paris. Je précise aux auditeurs d'RCF que leurs dons ne servent pas à financer un voyage au Honduras pour aller vous rencontrer. Soyons clairs avec cela. On est ici dans vos bureaux à Paris. Je pose toujours la question aussi à mes invités. Alors, on n'est pas dans votre bureau, on est dans la salle de réunion puisque le bureau ne permettait pas de nous accueillir. Mais quelle est la photo que vous aimeriez avoir sur votre bureau qui n'existe pas, qui certainement n'existera jamais, mais vous aimeriez qu'elle soit là quand même ? Il y aurait qui sur cette photo ? Il y aurait quoi sur cette photo ?
Ma famille ? Mes grands-parents.
Les grands-parents.
Mes oncles et tantes. Mmh. Et le tout, ça serait un mélange de Honduras et du Cantal. Voilà. Mmh. Il n'y aurait plus cet Atlantique entre les deux.
C'est-à-dire le Honduras, s'il y avait une utopie à faire, c'est que le Honduras soit frontalier du Cantal.
Voilà.
Durant cette émission, Maya Selva, on va essayer de découvrir donc, qui est la femme qui se cache derrière la productrice de cigares, quel est votre parcours, le lien qui vous unit à votre territoire. Bref, on va essayer de tout savoir sur vous. À la fin de l'émission, on parlera de votre engagement et des personnes qui, selon vous, changent le monde. Elle est là, elle est à côté de vous. Il s'agit de Mathilde Thiébaud. Peut-être deux, trois mots avant que vous nous la présentiez tout à l'heure, Mathilde Thiébaud. Elle est présidente d'une association qui s'appelle Paris Tegu, Tegucigalpa, qui est la ville natale où vous-même vous êtes née. Pourquoi avoir voulu nous présenter Mathilde, Maya?
Parce qu'elle sème de l'espérance.
Ah, une semeuse d'espérance. C'est joli, je garde le terme, peut-être pour une prochaine chronique. Quels sont nos semeurs d'espérance? Merci beaucoup. On va tout de suite commencer avec... Avec le cœur de ce qui fait votre vie, c'est la production de cigares. Vous êtes notre invité éco de cette semaine. On va parler de votre activité économique. On est sur RCF, dans Visage d'entrepreneur, avec Maya Selva.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Maya Selva, vous êtes donc productrice de cigares d'une marque qui est née en 1995. Alors j'ai fait des petits calculs assez rapides. Finalement, vous avez, avant de vous lancer dans le cigare, vous n'avez quasiment pas travaillé. Ça a été vraiment la fin des études et la décision de vous lancer dans la production et la fabrication de cigares.
Ah non, je remercie d'avoir eu une expérience professionnelle et d'avoir été salarié dans d'autres structures. Mmh. Ça permet d'avoir des points de comparaison. Mmh.
Donc vous avez commencé plutôt par des études d'ingénierie hein, avant de vous lancer dans
le système d'information.
Ouais. On sait aujourd'hui combien c'est au cœur de la vie des entreprises. Je suppose que pour diriger une entreprise comme la vôtre, il est essentiel. Comment se porte aujourd'hui le cigare pour les amateurs de cigares qui apprécient ça? On voit en ce moment sur le prix des cubains, puisque c'est un peu comme le vin hein, finalement, le cigare. Il y a de nombreux terroirs. Les cigares cubains explosent. Et aujourd'hui, comment vous qui produisez au Honduras, au Nicaragua, vous positionnez dans cette économie qui est, on a le sentiment, qui est un peu déséquilibrée?
Les enjeux sont grands, car on oublie souvent que le cigare est un produit agricole, qu'il faut 3 ans pour qu'il aboutisse entre les mains d'un aficionado. Et l'agriculture est en crise dans notre monde.
Et on est en pleine crise d'ailleurs de l'agriculture en ce moment en France. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, puisqu'on a quelques semaines de l'ouverture du Salon de l'agriculture et en plein cœur de cette manifestation de cri, de souffrance des agriculteurs en France. 3 ans pour faire un cigare.
Et donc il y a cette tension entre une production artisanale et un monde qui oublie qu'il faut produire et où tout est accessible au coin de la rue. Et je pense que cette tension et cette incommunication, ou vraiment confrontation presque, entre une société de consommation et le produit agricole font que ça explique pourquoi rouler un cigare, pourquoi semer ces feuilles de tabac, les problèmes de logistique. Ce n'est pas prioritaire. Mmh. Nous sommes vraiment dans le supplément d'âme, dans le plaisir, dans l'inutile. Donc tout cela fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de tensions. Ensuite, le changement climatique fait que, comme tout produit agricole, vous avez de bonnes
récoltes et de mauvaises récoltes. De bonnes années.
Donc tous ces paramètres se mélangent et provoquent beaucoup de tensions qui sont ressenties par les amateurs.
Mais le fait qu'aujourd'hui, on ait un prix du cigare cubain qui est quasiment inaccessible pour un amateur de cigare lambda, on appelle ça des marques premium, hein, c'est-à-dire, en substance, si vous n'êtes pas un milliardaire, c'est une fois dans votre vie, vous faites un beau cadeau comme on s'offre parfois un sac Hermès. Vos cigares, Maya Selva, sont beaucoup plus abordables pour les bourses des aficionados. Est-ce qu'il y a un enjeu pour une marque comme la vôtre de retravailler peut-être un des nouveaux segments de clientèle qui vont déserter peut-être le cubain pour retrouver d'autres saveurs avec d'autres terroirs?
Alors, on peut toujours adapter l'offre à la demande, j'ai envie de dire, très bien. La démarche dans cette entreprise a été un peu différente. Et une notion de juste prix, alors c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué, mais de dire ce cigare qui va durer 45 minutes, une heure.
À peu près, oui.
Voilà, qui va être un complice, finalement. Ne soit pas à une valeur, vraiment. C'est plus de 365, 400 paires de mains. Des gens à qui on veut donner une vie digne, à qui on veut, voilà, donner aussi de une dynamique de progrès. Comment le valoriser et comment faire que l'accumulation jusqu'à les mains de l'amateur ait un sens et soit vraiment légitimisé et justifié. Et j'aime l'idée de dire, un amateur voit Flore de Selva et dit « Ah, je sais que c'est bon et ce n'est pas, c'est pas un trou dans ma poche.
Oui. »
Voilà, c'est un effort.
Et c'est pour ça que vous vous arrêtez à trois, je l'ai cité en introduction, à trois gammes, à trois marques différentes, Flore de Selva, Kumpai, Villa San Morano. C'est pour ça que vous restez cantonné à trois marques ou vous pourriez éventuellement, dans le temps, en imaginer une nouvelle avec peut-être un nouveau terroir
Alors j'ai découvert un plaisir, vraiment un plaisir, une satisfaction, c'est de faire des mélanges avec des tabacs de terroirs différents et comprendre le tabac de chaque vallée. Presque.
Comme le vin, vous assemblez en fait des feuilles de tabac.
Et donc le cigare est un assemblage. Et je rêverais de pouvoir partir au Mexique, en République dominicaine, de voyager et de découvrir de nouveaux terroirs, le temps, et essayer de déjà bien faire ce qu'on a à faire.
Alors comment ça se passe la fabrication d'un cigare aujourd'hui, Flore de Selva, votre entreprise, c'est une fabrique, c'est aussi des champs de tabac que vous cultivez ou vous achetez à des cultivateurs les feuilles de tabac pour les transformer. Comment vous avez fait le choix? Vous avez fait le choix de quelque chose de complètement unifié ou vous faites travailler des agriculteurs du Honduras, du Nicaragua?
Alors, j'ai commencé à l'envers. J'ai commencé par l'assemblage, par la proposition de goût. Et donc, Flore de Selva a été la première proposition qui mettait en avant le goût du tabac des vallées du Honduras. Donc, je suis allée découvrir mon propre pays et j'ai fait le tour de toutes les vallées, de tous les acteurs. Et là, j'ai fait faire l'assemblage. Et c'est avec ces cigares-là que je suis arrivée en Europe, que j'ai commencé à vendre. Donc, la première activité a été de vendre ces cigares, de voir si c'était pertinent ou pas et s'il y avait une place sur le marché. Et ce n'est qu'à travers le temps que nous avons intégré tout doucement les différentes activités.
Donc petit à petit, vous avez construit cette activité. C'est combien de collaborateurs aujourd'hui, Maya Selva, si on prend les fabriques, si on prend le personnel des différentes
structures? Nous devons être 160.
160 personnes en 25 ans. Comment on manage toutes ces cultures différentes, des cultures françaises, des cultures honduriennes, des cultures peut-être nicaraguayennes? Comment on manage ça? Vous vous définiriez comment comme chef d'entreprise, Maya Selva?
Ah, je laisserai les autres le faire, ça sera plus facile.
Alors comment vous avez envie de manager? Comment vous aimeriez qu'on vous perçoive comme chef d'entreprise?
Par le sourire et l'autonomie des personnes.
Et ça, on l'entend à la radio, que vous avez le sourire. Voilà. On reviendra peut-être dessus à posteriori. Le monde du cigare est un monde d'hommes. Je disais à un moment donné dans notre présentation que vous avez fait un petit peu votre place dans ce monde d'hommes. Ça a été compliqué ou pas?
Alors, côté production, ça a été très lent, comme dans tout monde paysan, j'ai envie de dire. Ils sont méfiants et il faut vraiment le temps. Et je crois que d'être une femme, ça a été plutôt un avantage. Parce qu'il y a un grand respect de la femme. Donc, entre...
L'étonnement et le respect, vous les avez déstabilisés.
Voilà, ouais, c'était... ils ne prenaient pas trop au sérieux, je suppose. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup, beaucoup. Je travaillais dans les ateliers avec les femmes, parce que vous avez des ateliers de femmes et des ateliers d'hommes. Et j'étais au milieu des femmes, et là, on dévenait les feuilles. Donc, feuille à feuille, vous enlevez la veine. Et ça faisait déjà 3 ans que j'étais dans le milieu. Donc moi, je considérais les connaître. Je disparais pendant 1 an, car ma fille est née. Je reviens Et je me remets à l'atelier, à suivre le rythme de l'atelier, à être avec elles. Et elles me disent, ah, maintenant que vous avez accouché, vous êtes vraiment des nôtres.
Ah oui, il fallait devenir mère pour être là, adoubée par la communauté des femmes.
Et là, j'ai compris que moi, j'avais l'impression qu'elles m'avaient acceptée. Mmh. Absolument pas. Il y avait vraiment une méfiance qui était encore là. Et c'est... j'ai l'impression que le fait d'être une femme les a vraiment désarçonnées et a fait que, quelque part, ils m'ont protégée.
C'est ça.
Ils vous ont protégée. Côté marché, ça a été un peu plus compliqué.
C'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire avec ses cigares? Mais pour qui elle se
depuis,
prend
Voilà, exactement. Et en plus, est-ce qu'on laisserait une femme concevoir le moteur d'une voiture remarquable? Il y a tout de même des domaines très réservés.
Alors, on en reparlera parce qu'il y a beaucoup de choses de votre activité économique qui sont liées à cette double culture, hein, puisque vous êtes franco-hondurienne. En fait, il y a l'entreprise, c'est un pied en France, un pied au Honduras. C'est ce que vous disiez, c'est le moyen de rapprocher la France, le Cantal du Honduras, d'avoir ces deux structures avec des structures d'entrepôt, de stockage, là où tout a commencé.
Ah, peut-être que vous n'étiez pas né en 89.
Oh, si, j'étais né en 89, si.
Mais il y a eu la chute du mur de Berlin.
Ouais, et ça a été une...
Et c'est tout de même, soudain, plus de visa.
Ouais.
On pouvait aller partout, partout. Et alors cette idée d'associer, de faire de ma vie mes deux origines, semblait parfaitement possible. Mmh. C'était dans les possibles. Et donc ça a été ça.
Maya Selva, on va retrouver notre chroniqueur Nicolas Masson pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On se retrouvera après pour évoquer la pause musicale que vous avez choisie et puis après on entrera dans votre parcours.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Nicolas Masson.
Et on retrouve Nicolas Masson pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Nicolas.
Bonjour Patrick.
Alors Nicolas, vous avez souhaité prolonger l'exploration de votre chronique précédente sur la question du travail et sur la joie en parlant aujourd'hui du sens du travail.
Oui, parce que donner du sens du travail, c'est vraiment une de ces formules magiques, de celles qui provoquent un acquiescement unanime. Si je dis dans une conversation « aujourd'hui l'entreprise doit donner du sens », tout de suite, l'un évoquera un jeune qu'il connaît et qui a lancé une start-up à impact environnemental, l'autre d'un cadre qui a quitté un job devenu alimentaire pour se lancer dans une activité moins manuelle.
Mais Nicolas, ce besoin de sens est-il vraiment nouveau ?
Non, pas vraiment. Le besoin de sens est dans la nature de l'homme. De tout temps, l'homme a besoin de savoir pourquoi il agit. Pensez-vous vraiment, Patrick, que nos grands-parents travaillaient sans raison et exécutaient sans joie les directives d'un patron qui n'expliquait rien avant de devenir à leur tour, peut-être, des patrons qui à leur tour dicteraient aux autres ce qu'ils devaient faire ? Non, le besoin de sens n'est pas nouveau, il est inscrit dans le cœur de l'homme, le co-créateur à l'image du créateur. Non, ce qui a changé, c'est notre difficulté à trouver du sens. Aujourd'hui, les entreprises, et plus largement la société, peinent à combler notre besoin de sens.
Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'un besoin spirituel, finalement ?
Bien sûr, tout à fait, c'est vraiment un besoin spirituel. De fait, un travail qui a du sens, c'est un travail qui nous anime, et c'est le sens étymologique de donner vie. Il nous permet de faire du bien, de réaliser quelque chose d'unique et d'être en lien avec nos frères. Quand vous faites un beau travail, Patrick, qui contribue à la vie du monde, vous vous sentez pleinement vivant. Ce que vous avez fait donne du sens à votre vie. Or, notre société est fatiguée, elle souffre d'hyperconsommation, d'incapacité à s'arrêter, à savourer ce qui lui est donné. Elle se ronge d'inquiétude sur l'avenir. Je pense qu'elle a perdu le sens de Dieu, et en s'éloignant de Dieu, l'homme s'éloigne de lui-même. Dans sa lettre au général X, Saint-Exupéry écrivait « Il n'y a qu'un problème, rendre aux hommes une signification spirituelle ». C'est bien le sujet du sens du travail.
Alors, mais que vient faire le spirituel dans l'entreprise et que peuvent-elles bien faire, ces entreprises ?
L'entreprise ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup. D'abord, le travail n'est pas le seul lieu de notre vie spirituelle. On a la vie familiale, la vie associative, la vie spirituelle, religieuse. Ce que peut l'entreprise, c'est donner à chacun un travail de qualité et construire le cadre correspondant. Pas de meilleur guide pour cela que la pensée sociale chrétienne. Ainsi, en s'inscrivant son action au service du bien, l'entreprise donne l'opportunité à ses collaborateurs de contribuer à quelque chose de grand et de bon. Mais ne nous trompons pas, ce n'est pas l'entreprise qui crée, voire impose le sens du travail. Ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui le construisent, jour après jour, dans le cadre proposé par l'entreprise. C'est une aventure collective où chacun écrit intérieurement sa propre histoire.
Merci beaucoup Nicolas Masson. Nous, on retrouve tout de suite Maya Selva pour évoquer la pause musicale qu'elle a choisie. Une pause musicale qui, bien évidemment, on l'espère, va nous emmener sur les rives latines. En tout cas, merci encore Nicolas Masson. On se retrouve très prochainement pour une prochaine chronique avec vous.
RCF, l'écho des solutions.
Voilà, merci beaucoup Nicolas Masson. Maya Selva, comme toute émission de Visage d'entrepreneur, je demande à mon invité de choisir une pause musicale. Vous choisissez
Celia Cruz, une grande, grande chanteuse interprète cubaine qui a vécu l'exil. Donc il y avait cette douleur, cette nostalgie de l'exode. Et ça ne lui a pas empêché d'avoir vraiment une carrière remarquable. Ouais. Et donc c'est une chanson de la, pas la fin de sa vie, mais vraiment d'une femme mûre. Les paroles sont parfaites. Voilà, je vous la recommande.
Eh bien écoutez, c'est parti, on l'entend déjà un petit peu en fond musical. La vie est un carnaval, Cecilia Cruz sur RCF dans Visage d'entrepreneur, dans l'écho des solutions avec Maya Selva.
Solutions. Patrick Longchamp.
Voilà, on ouvre donc la seconde partie de cette émission. On va avec vous, Maya Selva, faire un petit tour d'horizon de votre parcours. Vous êtes donc née en 1965 à Tegucigalpa, au Honduras, d'une mère française, d'un père hondurien. Et puis vous venez faire vos études en France. Quel regard, vous l'avez un peu mentionné tout à l'heure avec 1989 et la chute du mur de Berlin, mais quel regard vous avez sur votre enfance, Maya Selva?
Alors, merveilleuse. Je crois que j'ai cette chance d'avoir été dans une famille protégée qui m'a permis d'apprendre trois langues, de découvrir des pays, d'être dans un milieu d'intellectuels.
Que faisaient vos parents d'ailleurs, Maya? Vous étiez milieu intellectuel, ils étaient professeurs, enseignants, médecins, ingénieurs?
Alors, mon père faisait la planification économique.
D'accord.
Ils sont très ancrés dans les années 70. Donc, le mouvement contre le Vietnam, les premières bombes nucléaires sont présentes. On se demande quelle est l'utilité de la technologie par rapport à l'être humain. Donc, eux choisissent cet engagement pour une société où on consomme moins, où on s'approche. Oui.
C'est le mouvement des années 70, en effet. Oui.
C'est le mouvement des années 70. Il y a beaucoup de discours qu'on entend aujourd'hui où je me dis, mais ces débats ont déjà eu lieu.
Et vous grandissez au Honduras ou vous grandissez en France?
Un peu partout. Sur le continent.
Un peu partout sur le continent. Vous bougiez beaucoup, en fait.
Voilà.
Pour les raisons peut-être professionnelles. Un regard d'enfance. Qui sont les héros de Maya Selva à ce moment-là? Vous disiez dans votre photo mes grands-parents, etc. Quels sont les personnages marquants autour de vous que vous admirez profondément?
Alors,
dans l'enfance.
Oui, dans l'enfance. Je pense que mes parents me parlent de Gandhi. Donc c'est Mahatma Gandhi. C'était étonnant. Ouais. C'était tellement exotique. Absolument incroyable. Martin Luther King, Kennedy, il y a beaucoup d'épopées, d'allégories à travers des personnages.
Des personnages qui marquent, des personnages d'actualité à ce moment-là, parce qu'ils sont encore présents parmi nous, leur action fait des émules, donc une vraie présence, et on voit bien d'ailleurs cette cohérence entre l'engagement qu'ils ont sur le plan écologique, sur le plan du circuit court, de limiter la consommation, et sur le plan de ces personnes. Et en quoi ils vous stimulent à ce moment-là? C'est des étoiles dans les yeux? C'est des envies d'être pareil qu'eux?
Oui.
Ouais.
Oui, vraiment.
Vous voyez étonnant. Dans la peau de Mahatma Gandhi aujourd'hui, Maya Selva?
Alors, pas du tout. Du tout. Mais comment est-ce qu'ils en arrivent à ce genre de comportement, de raisonnement et le respect de l'autre qu'ils inspirent. Et finalement, il y a toutes les situations. Où est-ce que vous voulez porter votre regard? On peut porter son regard sur les côtés moches et laids de chacun, ou au contraire, le porter sur le côté beau.
Alors, qu'est-ce que vous lisez dans l'enfance? Vous étiez une adepte de la lecture, vous voyagez beaucoup, donc je suppose que vous êtes amenée peut-être à avoir des livres de différentes. Est-ce que vous étiez une lectrice dans l'enfance, Maya Selva?
Alors, j'ai découvert la lecture vers 13-14 ans, avec l'adolescence, mais je me rends compte aussi qu'on nous faisait beaucoup lire. C'est vrai que toute la bibliothèque rose, verte, on recevait
toutes les couleurs.
Voilà, toutes les couleurs, pommes d'api, okapi. Le livre, l'écrit fait partie de l'environnement.
Ouais.
Et ce n'est qu'à... j'ai l'impression que ça a été la littérature française, le réalisme, qui ont fait qu'on plonge de façon spontanée.
Les bibliothèques vertes, roses ont été l'introduction, finalement.
Voilà, le Club des Cinq.
Voilà, le Club des Cinq, Fantomette, Alice et le Lieutenant X, pour ceux qui aiment l'espionnage. Et
Dumas,
elle a été l'introduction.
Dumas, avec toute la...
toute la collection des Dumas. Et après, finalement, il y a une forme de rentrée dans l'âge adulte de la lecture, à travers la découverte, justement, de la littérature française, romanesque, et avec toute sa richesse, et puis peut-être aussi les romans étrangers, parce qu'il y a de très grands écrivains de langue étrangère.
La littérature d'Amérique latine est passionnante.
Ouais.
Entre Carpentier, Márquez...
Et Gabriel García Márquez, qui était prix Nobel de littérature.
Voilà, donc après, mais ça devient un choix. Ça devient un choix.
Alors, la culture du cigare était présente déjà dans la famille Selva, ou pas du tout?
De façon anecdotique,
chez
mon grand-père. Mais parce que nous sommes dans une économie d'agriculture d'autonomie, donc il fait venir des feuilles de tabac de sa ferme, et il y a une femme qui roule des cigares, qui prépare le tabac, qui roule des cigares, et lui finit son cigare dans sa pipe. Donc voilà, c'est vraiment anecdotique.
Vraiment anecdotique, donc pas de culture particulière sur le cigare?
J'ai vraiment pas l'impression. Plutôt une fille de ville.
Une fille de ville. Alors, à l'âge de faire les études, vous quittez le cocon familial pour la France. Vous dites, on est après 1989, après la chute du mur. J'ai senti, quand vous avez dit ça, qu'il y avait une forme de libération. C'est un poids qui, pour votre famille, pour vous-même, a été levé. Vous vous sentiez oppressé construite par ce mur?
Alors, les années 80, on voit la révolution sandiniste. Le Honduras est juste à côté.
C'est ça, ouais.
La guerre froide est présente dans notre vie.
Ouais.
Le passeport du Honduras dit que je n'ai pas le droit d'aller dans un pays du COMECOM, étant
les pays communistes.
Ce sont des discours très... on est soit d'un côté, soit de l'autre. Il y a eu une chasse aux sorcières au Honduras pour toute personne qui pouvait être communiste. C'est vraiment le diable.
C'est vraiment le diable.
Et tout le discours ambiant est très polarisant. C'est vraiment les contraires. Et donc, il faut choisir son camp. Venant d'une famille plutôt progressiste, politiquement, c'était très facile de basculer vers le côté communiste, carrément.
Obscur de la force.
Aujourd'hui, je sais que c'est plutôt social-démocrate ou démocrate chrétien. Mais il y a une vraie polarisation de la société. Et ayant un père qui fait de la planification économique, mais les choses se passent au niveau macro. Je ne dirais pas du tout micro comme dans une entreprise.
Donc vous quittez le Honduras, vous arrivez en France pour faire vos études. Alors passer le bac et faire vos études. Vous redécouvrez la France à ce moment-là, Maya.
Parce que je découvre le quotidien.
Le quotidien, parce que c'était le lieu de vacances.
Le lieu de vacances, donc tout le côté merveilleux de se retrouver en Auvergne avec les cousins tous les étés et d'autres coins de France. Et là, le quotidien.
Et alors, il y a un décalage entre ce que vous viviez au Honduras et le quotidien des études parisiens ou pas?
Alors, de découvrir que l'admiration pour la littérature ou la culture française n'était pas standard. Donc il y a ça, le climat et les relations, l'interaction entre les personnes. La vie est très agitée ici, donc la disponibilité des gens est différente. Et finalement, je venais d'un village où on pouvait taper à la porte du voisin très facilement. Alors qu'ici, ce n'est pas, c'est pas exactement la même, c'est pas la même mentalité.
Aujourd'hui, vous vous sentez culture. Quoi française, hondurienne, apatride, les deux complètement?
Mes enfants m'ont fait française.
Ouais.
Ils m'ont fait vraiment découvrir ce quotidien d'aller les déposer à l'école, de cet environnement très privilégié qu'on peut avoir ici.
Et comment justement vous équilibrez cette vie de mère, de chef d'entreprise? Vous voyagez beaucoup parce que bien évidemment il faut aller de temps en temps au Honduras, voir d'abord si tout va bien, il faut aller aussi dans les plantations, il faut rencontrer les agriculteurs. Comment vous équilibrez cette double mission de femme, de mère, de chef d'entreprise?
Équilibre instable. On jongle.
On jongle, comme on peut.
Comme on peut.
Ouais.
On jongle comme on peut. Et puis, ça dépend des étapes de la vie. Quand les enfants sont petits, ados,
jeunes adultes. Aujourd'hui
jeune adulte. Donc, ça donne un peu plus de liberté. Mais le foyer est en France. Donc, et puis, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. J'ai envie de dire, mon métro s'appelle Paris-Tegucigalpa.
Vous avez de la chance.
Un peu long.
Vous avez aussi la chance de travailler avec votre mari. Vous n'êtes pas parti seul dans l'aventure de Maya Selva, même si aujourd'hui c'est vous qui portez l'entreprise. Votre mari est aussi présent au quotidien dans cet
équilibre. Alors c'est récent. Alors la complicité,
elle a toujours été là,
évidemment. Autrement, pas possible. Mais son implication dans l'activité date d'il y a 3 ans, 3-4 ans.
Les rôles étaient inversés à ce moment-là. Moi, je l'ai vu avec d'autres femmes chefs d'entreprise où il y a eu un choix soit naturel, soit, j'ai envie de dire, dit, de dire, bah, écoute, le quotidien des enfants, le quotidien de la maison, ça va plutôt être toi pendant que moi, je développe mon entreprise. Alors, ça peut être un non-dit, ça peut avoir été dit.
J'ai vraiment bénéficié de la complicité de mes beaux-parents, grands-parents.
Les grands-parents. Ah, ça, c'est très important,
les grands-parents.
Les grands-parents ont toujours une place importante. Hein. Je pense que j'entends qu'ils ont eu une place importante pour vous aussi, vos grands-parents.
Oui, ouais. Vraiment.
Ouais, vraiment.
Vraiment.
Comment on passe au cigare? Parce qu'on l'a évoqué un petit peu au début de cette émission. Vous, en 1995, vous lancez la marque. Évidemment, vous ne commencez pas tout de suite, vous apprenez. Vous avez un mentor, les aficionados de cigares le connaissent bien, c'est Plasencia. C'est un des plus jolis modules. Enfin, il y a plein de très beaux modules, mais voilà, il fait partie de ces grands noms du cigare. Sans la rencontre avec Plasencia, je vais appeler ça votre mentor, on est d'accord? Oui. Est-ce que vous pensez que Maya Selva existerait aujourd'hui? Il a fallu cette rencontre pour pouvoir aller vers ce qu'est aujourd'hui.
On ne peut pas revenir en arrière. Quand je rencontre Plasencia, il est principalement agriculteur. C'est vraiment un planteur de tabac.
Donc un homme de la terre.
Oui, un homme de la terre. Et il faut voir ses fermes de tabac. C'est vraiment très très beau.
On parle de fermes de tabac, c'est intéressant, pas de plantation.
Ah, plantation, peut-être.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
C'était peut-être un terme...
En espagnol, on parle de ferme.
Ferme. De ferme de tabac.
Et de alors, ferme de tabac.
Il faut combien de temps quand vous vous êtes... quand vous êtes dit, je vais me lancer dans le cigare, je pense que c'est parti de cette envie de relier la France et le Honduras, faire découvrir les saveurs d'un terroir à un pays dans lequel vous étiez enraciné aussi en France.
Alors, ça, c'est le fruit.
Ouais.
Le raisonnement, c'était qu'est-ce qui est fait au Honduras, totalement au Honduras, avec une valeur ajoutée au Honduras, que je puisse proposer dans les marchés du Nord. Si vous, dans tout ce qui est réflexion, les matières premières sont cotées dans le Nord. Qu'est-ce qui décide du prix de la matière première? Qu'est-ce qui décide du prix du café? C'est une bourse. Ce n'est pas la réalité...
De la production, du terrain,
du terrain. Donc comment est-ce que vous coupez cette dépendance du prix? Comment? Parce qu'il y a des jours où on ne peut même pas récolter le café, parce que le cours est tellement bas que vous ne couvrez même pas vos frais. Mais ça, ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'auront pas leur boulot. Donc c'est vraiment le fruit d'une réflexion. Et là, j'ai découvert le cigare. Le cigare répond à tous ces critères. C'est un produit agricole, il a une valeur ajoutée, tout est fait sur place, tout.
Et ça, c'était important.
Ah, mais c'était... Voilà, j'ai failli faire de la purée de banane au début. Hein. C'était moins glamour. Je reconnais, c'est moins glamour.
C'est moins glamour, mais ça nourrit les nourrissons, la purée de banane.
Voilà.
Et finalement, vous avez trouvé dans le cigare un point de départ qui répondait à vos objectifs. Alors, on voit qu'il y a du monde qui passe dans les bureaux de Maïa Selva. On va laisser ouvrir peut-être tranquillement la porte. Qu'est-ce que vous apprenez? C'est quoi? Alors, peut-être que les auditeurs se demandent, comment on compose un cigare? Vous disiez, il y a plusieurs feuilles, il y a plusieurs équilibres. Comment ça se passe? Il y a un assembleur, il y a un maître de chai, il y a un maître d'assemblage qui va faire des tests pour vérifier comment tout ça fonctionne?
Alors, je rentre dans des choses très techniques?
Rentrons
à la limite du technique. Chaque feuille est unique. Et son emplacement dans la plante va lui donner certaines caractéristiques. Mais là, vous êtes vraiment dans l'unicité. Et donc, vous allez créer une harmonie, une sorte de... Quel est le dénominateur commun? Et pour que ça puisse brûler, avoir des arômes, avoir de la force, il va falloir faire cet assemblage de feuilles qui ont comme caractéristique dominante soit le fait qu'elles brûlent bien, soit qu'elles ont beaucoup d'arômes, soit qu'elles ont de la force. Donc, il vous faut faire cet assemblage. Et alors, comme tout produit qui sort de la terre, il va y avoir les caractéristiques de la terre dans ses sorties. Donc vous allez mélanger et créer des harmonies et des équilibres.
Et une fois qu'on a créé cette harmonie et cet équilibre, on sait la quantité de tabac, la quantité de feuilles, qui va permettre d'avoir finalement sur une gamme comme Flor de Selva ou Kumpay,
alors,
quelque chose d'équivalent sur chacun des
si
modules.
Si vous faites très attention chez Flor de Selva, c'est le même cadre de goût, mais ce sont des assemblages différents. C'est-à-dire que le Siesta est plus fort que le Robusto. Le petit Corona est beaucoup plus doux et moins fort. La corpulence, pas force mais parlons de corpulence. Donc Flor de Selva est vraiment, chaque vitole a quelque chose à vous dire dans la même caractéristique puisque ça vient de feuilles de tabac des vallées du Honduras. Voilà. Donc tout ça fait que ça passe... Avant de pouvoir rouler une feuille, qu'elle fasse partie d'un cigare, il faut compter 2 ans minimum. Mais après, vous pouvez vous amuser à donner 3 ans, 4 ans.
Et ça veut dire que ce travail d'assemblage, même s'il est dégrossi dès le départ, ça veut dire qu'on va ensuite faire les mêmes choix de feuilles
pour un
assemblage.
Voilà. C'est ce qu'on appelle la recette.
Alors, justement, vous parliez beaucoup du monde agricole. On est à quelques semaines, justement, du Salon de l'agriculture en France, qui est un marqueur dans la vie économique, la vie politique et même sociale. Et on le voit aujourd'hui. On parle beaucoup de RSE dans les entreprises, responsabilité sociale, environnementale des entreprises. Comment elle existe chez Maïa Selva, au-delà du fait que vous êtes agricole, donc vous vous intéressez à la terre et au terroir?
Ça s'est intégré naturellement,
ouais.
Depuis le début, de dire ne pas être indifférent. Voilà, je crois que le RSE, c'est un concept, c'est pareil. Mais on n'a pas attendu le RSE pour avoir des entreprises engagées.
C'est ça.
Ça serait triste.
Ce serait triste, bien évidemment. Mais aujourd'hui,
je pense que c'est. Alors après, il y a des incitations fiscales, il y a de ceci, il y a de cela. Bon, bref, très bien. Mais peut-être justement que c'est là le souci, la façon dont les choses sont éclairées, et qu'on veut tellement mettre dans des cases et qu'on oublie que la vie est plus riche, que on doit être plus complet dans son approche.
Est-ce que aujourd'hui, au regard de tout votre parcours, vous avez des regrets, des choses que vous auriez fait différemment? Y a une phrase de moi que j'aime beaucoup dans Cyrano de Bergerac, on parlait de littérature française, qui dit « Voyez-vous, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent n'ayant rien fait, oh mon Dieu, de vraiment mal, mille petits dégoûts de soi dont le total ne fait pas un remords mais une gêne ». Alors, je ne vois pas parler de remords et de gêne, mais de regrets peut-être. Il y a des regrets, des choses que vous auriez fait différemment?
Pas de regrets, manque de maturité, manque de lucidité. Pas faire une famille, il faut faire une famille. Faire une entreprise, il faut faire une entreprise.
Et faire les deux?
Faire les deux,
c'est compliqué.
C'est vraiment, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué. Quels sont aujourd'hui les livres qu'on trouve sur la table de nuit de Maïs Elva ou dans le sac de voyage, parce que il faut aussi s'occuper peut-être pendant les longs trajets entre la France et le monde.
Lettre africaine, Karen Blixen.
Ah, très très beau ça.
C'est regard tellement bienveillant et tellement voilà.
Vous y trouvez quelque chose de vous dans les lettres africaines? Parce qu'il y a un côté d'exil, il y a un côté de découverte d'un territoire.
C'est vraiment, je m'identifie énormément.
Lettres africaines pour les auditeurs, dont a été tiré le film Out of Africa, il me semble, avec Meryl Streep et Robert Redford, très beau.
Je ne sais pas s'il a bien vieilli ce film, mais en tout cas...
Je ne l'ai pas revu depuis longtemps. En tout cas, moi j'avais été fasciné par les images et par l'histoire, et d'ailleurs j'avais a posteriori acheté l'ouvrage pour le lire.
Lors de ma première semence... Ah, je me sentais totalement...
Blixenienne.
Totalement blixenienne. Ce lever du jour avec les sillons faits. Et voilà.
D'attendre
le temps. Et c'est vraiment... L'expérience de l'agriculture vous rend...
Humble.
Plus sensible et plus humble.
Ouais, sensible et plus humble à la pluie, au soleil, à tout ce qu'il en est. On va parler un petit peu engagement, si vous le voulez bien, vous considérez comme une femme engagée au-delà du travail que vous réalisez aujourd'hui. Ça signifie quoi pour vous l'engagement, Maïa Selva?
Insoumise. Mais non, mais dans le sens, on s'engage, on essaye de faire.
De faire, oui.
De faire. Et de faire en bonté, j'ai envie de dire. C'est bizarre, voilà.
C'est bizarre de parler comme ça, de faire en bonté. On n'est jamais tellement à l'aise de mais moi le premier et toutes les personnes que j'ai interviewées le sont un peu, on a toujours du mal à parler en bien de soi et de dire je suis engagé. Où est-ce que vous êtes concrètement engagé? On le verra peut-être à l'instant, d'ici quelques instants avec Mathilde Thiébaud, mais c'est quoi pour vous? Vous êtes engagé où aujourd'hui? Vous donnez du temps dans l'entreprise,
important.
Un peu dans la vie associative, la
vie associative. Il y a une confrérie Jean Nico, qui est la confrérie du tabac, où ce sont vraiment la défense de la tolérance et de la convivialité. Tout ce qui nous éloigne des animaux, j'ai envie de dire, d'être un peu plus civilisé. Ensuite, il y a une très belle association de la diaspora du Honduras, avec vraiment des gens de qualité, où il y a des réflexions qui sont menées. Ensuite, il y a le soutien, mais vraiment strictement matériel, par manque de temps, justement, vis-à-vis de Paris Tegucigalpa, par exemple, où il y a un travail remarquable de fait, ou un refuge pour enfants de la rue, à Danly. Et c'est apprendre... Ne pas laisser des petites vies comme ça livrées à elles-mêmes.
C'est ça.
Leur apprendre qu'elles sont parties d'un ensemble. Et l'humain peut être tellement... juste la bienveillance peut vous faire des miracles.
On est sur RCF, les radios chrétiennes francophones, et Dieu dans tout ça, Maïa Selva.
Tous les jours.
Il est là tous les jours avec vous?
Ah oui.
Ouais.
Ah oui, je me sens tellement protégée, tellement
Il y a une culture
gratitude.
Chrétienne chez les Maïa Selva. Vous avez été Souvent en Amérique latine, on dit que ça fait partie de la culture, peut-être un peu moins aujourd'hui.
Alors, pas du côté de mes parents en direct, mais oui, une culture chrétienne très forte. Très, très forte. Donc, très présente.
Vous vous sentez aimé, en fait.
Bravo.
Vous vous sentez aimé au quotidien et vous avez aimé aussi nous présenter Mathilde Thiébaut. Dites-nous quelques mots sur Mathilde et sur, vous en avez évoqué quelques éléments sur Paris Tes Goûts. Pourquoi avoir fait ce choix de Mathilde quand je vous ai demandé qui est la personne qui pour vous aujourd'hui change un petit peu les choses, change le monde?
Alors, la dynamique que l'on constate partout dans le monde, c'est cette sorte de « on oublie les adolescents ». Alors on va faire un effort au niveau de la maternelle, du primaire, et on oublie complètement les adolescents. Mmh. On oublie les vieux enfants.
Ouais. Alors que c'est une période où ils se construisent.
Et c'est là qu'ils se construisent.
Ils grandissent et en esprit et en corps.
Et c'est vraiment une étape mais absolument cruciale. Et dans toutes les réflexions que je pouvais me faire, tous les engagements. Le mot engagement me
dérange.
Mais s'il y a être solidaire, j'ai envie de dire, c'est vis-à-vis de tout ce qui est éducation, enfance et construire l'adulte de demain.
Et c'est pour ça que vous
avez... Et c'est vraiment l'urgence. L'urgence, c'est l'enfant et le jeune adulte. Et là, un jour, j'ai eu cette joie de découvrir une personne qui, elle, est engagée. Voilà, voilà la différence, j'ai envie de dire, qui, elle, est engagée dans cette étape. Et c'est très rare, parce que c'est pas du tout glamour, c'est pas du tout... Mais non, c'est très rare. Et en plus, Honduras, dans une société tellement déstructurée, où il manque tellement de repères. Donc, travail remarquable.
Ben on va la découvrir juste après cette petite virgule avec Mathilde Thiébaut, qui est notre invitée des 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde... L'écho des solutions.
Voilà, 7 minutes pour changer le monde avec l'invitée de Maïs Selva, Mathilde Thiébaut. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez écouté Maïa Selva, vous avez découvert des choses sur Maïa que vous ne connaissiez pas, peut-être une autre facette, une autre personnalité, des éléments de parcours. Qu'est-ce que vous retenez de cet échange? Et puis après, on parle bien évidemment de votre association.
J'ai découvert plus en profondeur son parcours. Oui. Maïa, pour moi, est une femme extrêmement inspirante qui incarne son entreprise, son projet avec son charisme, son charme, ses valeurs humaines. Et en tant que porteur de projet, pour moi, ça me frappe et ça m'inspire le fait d'incarner ce qu'elle fait avec 100% tout ce qu'elle est, en fait.
C'est ça, c'est-à-dire pouvoir s'inspirer du travail, de la personnalité, de l'engagement de Maïa Selva pour le dupliquer d'une certaine manière dans l'association Paris Tes Goûts et mener cette petite entreprise, parce que le monde associatif est une entreprise, hein, n'oublions pas, c'est juste un statut légal, hein, et ça se doit aussi de vivre, de générer des fonds. On va évoquer donc avec vous Paris Tes Goûts, dites-nous-en un peu plus. Maïa nous a dit, voilà, ça, c'est à destination de l'adolescence, parce que en effet, ce sont, et j'ai envie de dire même en France aujourd'hui, hein, l'adolescence, c'est peut-être l'endroit où finalement on prend le moins soin de nos jeunes.
Oui, Paris Tes Goûts donc intervient à Tegucigalpa, donc la capitale du Honduras, et vient en aide aux adolescents et jeunes adultes de 12 ans à 23 ans, en proposant un ensemble de programmes qui vont leur permettre de se construire les bases et les outils et l'attitude pour pouvoir avancer et se construire une voie positive dans un environnement qui est très délétère.
Alors, qu'est-ce que vous y faites? Comment vous repérez ces jeunes adolescents? Est-ce qu'il y a des services sociaux qui vous les envoient? Est-ce que c'est je vois Maïa qui fait une moue, mais j'ai pas voulu être stigmatisant en disant vu qu'il y a pas de services sociaux. Donc comment vous repérez? C'est les voisins, c'est les gens qui vous disent, qui disent à vos équipes, hein, parce qu'il y a quand même des équipes qui travaillent sur place, hein, qui disent allez, il y a ce jeune, on le prend, on le met dans le centre, on lui propose quelque chose. Comment ça se passe?
Alors, au départ, oui, il fallait nous faire connaître aller dans les quartiers et même dans, dans les collèges et dans les rues, parler aux jeunes, aux mères de famille. Moi, j'ai commencé de rien. Je suis arrivée avec un sac à dos, donc avec au début
c'était il y a 17
20
ans, ça.
Jeunes. Et maintenant, on a un centre avec 150 jeunes. Mmh. Et ces dernières années, les meilleurs ambassadeurs, ce sont les anciens, ce sont les jeunes qui en parlent. Donc, on a les petits frères, petites sœurs, les voisins, les cousins, les neveux, parce que maintenant, il y a une génération qui est adulte.
Mais c'est ça, oui.
Il y a des anciens élèves qui sont même devenus parents. Donc, on est sur liste d'attente, en fait.
Alors, qu'est-ce que vous leur proposez à ces jeunes adolescents, ces jeunes adultes exactement et alors, très concrètement?
Caractérise vraiment le centre, c'est une démarche globale. C'est vraiment une vision intégrée de l'insertion. Il s'agit pas, parce qu'on a toute la partie artistique, on a aussi une école hôtelière, mais l'idée est pas juste de venir chanter ou de venir apprendre à faire la cuisine. C'est tout un ensemble. Il faut vraiment répondre à toutes les dimensions de l'adolescent, parce que un adolescent, il a besoin à la fois déjà de reprendre confiance en lui, de se sentir écouté, soutenu. Donc c'est une grande famille, le centre. Il a besoin aussi de se divertir, parce que un adolescent, on peut pas oublier qu'il a aussi besoin de changer les idées, de s'amuser, de connaître des jeunes de son âge, de faire des amitiés saines, parce que c'est en transformant aussi le temps libre et les amitiés, en remplaçant des amis sains,
des amis malsains par des amis sains, de changer un petit peu l'environnement.
Qu'on va changer leur mentalité, les objectifs de vie, et qui vont faire qu'ils vont être beaucoup plus hermétiques par rapport aux risques qui existent dans leur quartier et qui sont omniprésents.
17 ans après, quel est le bilan que vous pouvez tirer de cette expérience Paris-Tégouy? Ça fonctionne? C'est ceux que vous avez accompagnés aujourd'hui, que sont-ils devenus? Sont-ils devenus des personnes saines, si on repart de la comparaison des environnements dans lesquels ils pouvaient éventuellement grandir ou auraient pu éventuellement grandir?
Déjà, c'est plus de 1600 jeunes qui sont passés par les mains du centre et qui ont eu l'opportunité de transformer leur vie. Au Honduras, le problème, c'est que c'est une société où quand on est en bas,
C'est difficile de monter.
C'est extrêmement difficile. Et toute la société vous fait croire que ça va être quand même... on est pauvre, on reste pauvre, on est dans un quartier marginalisé, on va rester là toute sa vie.
Donc il y a une forme de déterminisme social qui est posée dès le départ et qui finalement enferme peut-être... cette génération dans ce qu'elle est, sans espoir peut-être de changer de condition, c'est ça?
Un petit peu. Moi, j'essaye sur quoi vous luttez. C'est ce que je combats, mais c'est ce que pensent les jeunes. C'est quelque part une perte d'espoir en leur avenir et qui sont condamnés à être dans cette précarité, dans un mode de survie, et d'où tant de jeunes qui migrent clandestinement vers les États-Unis. Et Paris-Tégouy leur donne l'opportunité de transformer, modifier ce regard de ce qu'ils peuvent faire dans la vie, de ce qu'ils peuvent devenir.
Comment on peut vous aider? Parce qu'évidemment, qui dit association dit aussi besoin. Vous créez un peu d'activité économique, mais qui ne permet pas de faire vivre complètement l'association. Comment est-ce que l'on peut vous aider, Mathilde Thiébaud?
On a besoin de soutien, on a besoin de... déjà, le grand défi chaque année, c'est de réunir les fonds.
Le budget pour l'année. C'est combien d'ailleurs un budget pour votre association?
C'est un budget de 100 000 euros environ par an, qui est difficile à trouver parce que on a malheureusement pas de soutien au Honduras, et c'est dont parlait Maya, une vraie carence au Honduras d'infrastructures destinées à la jeunesse. Il y en a un petit peu plus pour la petite enfance, mais vraiment rien pour
l'adolescence et la jeunesse.
Voilà.
Et la vie adulte.
Alors qu'effectivement, c'est la période charnière. Donc, pour pouvoir poursuivre notre action, on a besoin essentiellement d'un soutien financier. C'est vrai que après, on a trouvé en France des partenariats qui apportent un soutien technique aussi, et en particulier avec un lycée hôtelier qui nous a accompagnés de nombreuses années pour structurer et développer notre école hôtelière. Aujourd'hui, le centre fonctionne bien et de manière opérationnelle, autonome.
Donc, mais on peut vous aider, on peut vous faire des dons en fait. Oui. Est-ce qu'on peut aussi donner du temps, parce que l'infrastructure parisienne est réduite, hein, puisque l'essentiel de l'actualité et de l'activité est au Honduras. Est-ce que aujourd'hui vous prenez des volontaires, par exemple, pour venir accompagner vos équipes au Honduras, de volontariat international, ou juste finalement le don financier sera nécessaire parce que finalement aujourd'hui vous êtes bien, bien structuré et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus?
On a surtout des volontaires locaux.
Locaux, c'est très bien.
Et oui, il est possible de s'engager depuis la France et de venir nous aider sur le terrain à partir du moment où la personne a un profil, une profession qui répond à un besoin. Mais depuis la France, c'est vrai que c'est indispensable pour nous d'avoir des dons. Que chaque année, nous, c'est pas comme une entreprise, on construit pas une clientèle, il faut chaque année renouveler les dons, les subventions.
Et il y a besoin d'à peu près 100 000 euros par an pour faire vivre l'association. Merci beaucoup Mathilde Thiébaud d'avoir été notre invitée des 7 minutes pour changer le monde et surtout d'avoir été l'invitée de Maya Selva. Je me retourne vers vous, Maya, pour clore cette émission. On arrive au bout et merci encore mille fois à vous d'avoir pris du temps sur un agenda très chargé pour répondre à toutes nos questions. C'est ce qu'on appelle la fermeture de parenthèse. Comment vous vous sentez à l'issue de ces 58 minutes que nous avons passées ensemble, un peu plus d'une heure d'ailleurs même, Maya Selva?
Ravie de cet échange. Finalement, ça permet de faire une pause.
Ouais. Au milieu de la vie trépidante.
Et au milieu de la vie trépidante. Et de dire vraiment à ceux qui vous écoutent que rêver, c'est vraiment important. Et ne jamais perdre l'espérance. Et le faire un tout petit peu chaque jour.
Eh bien, écoutez, on va se quitter sur ces mots. Merci beaucoup Maya Selva d'avoir été notre invitée de l'écho des solutions dans ce visage d'entrepreneur. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. On se retrouve sur rcf.fr. N'oubliez pas qu'on se retrouve sur cette même plateforme tous les vendredis dès 17h en avant-première et à 14h sur toutes les antennes du réseau. Et puis bien évidemment, si vous voulez réécouter les anciens épisodes, vous pouvez aller sur les différentes plateformes de podcast dédiées. Merci à vous toutes et à vous tous. À très bientôt. Au revoir. We'll be right back.